religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à tous. 2000 mètres carrés sur trois niveaux pouvant accueillir jusqu'à 1500 fidèles. Un centre cultuel, mais aussi culturel, sobriété, élégance, tradition et technologie de pointe. La grande mosquée de Cergy, inaugurée début juillet, est une totale réussite architecturale. Le maire de Cergy et député socialiste du Val d'Oise, Dominique Lefebvre, a largement soutenu ce projet de 3,7 millions d'euros, financé par les dons des fidèles et des prêts, en accordant en 2005 un bail emphytéotique pour l'acquisition du terrain, après avoir obtenu des 10 associations musulmanes de la ville qu'elles se regroupent et adoptent une charte engageant la nouvelle fédération musulmane de Cergy à la transparence, l'ouverture, l'indépendance de toute tutelle et au respect des règles de la laïcité. Abdoulaye Sangaré, secrétaire général de la Fédération musulmane de Cergy.
Nous sommes très très fiers de notre mosquée, très fiers parce que comme on dit toujours, on avait le rêve de nos aînés, hein, les anciens qui ont pensé à ce projet depuis 30 ans. Et lorsqu'on a pris le flambeau en 2003, en s'unissant, parce que c'est en se fédérant qu'on a réussi à le faire, au bout de 9 ans, on réalise le rêve, vraiment on est fiers de cette réalisation-là.
Avant, vous priez où ?
La communauté musulmane de Cergy, je dirais, on était dans une précarité culturelle, comme je dis des fois, on était un peu des SDF de la foi. On était dispersés dans différentes salles que la municipalité voulait bien nous prêter, dans des gymnases ou dans les salles municipales.
Et là, maintenant, vous vous trouvez dans un quartier résidentiel avec cette mosquée d'une grande qualité architecturale.
Oui, nous l'avons venu comme ça aussi parce qu'on s'est dit, on a attendu 30 ans, donc tant qu'à faire, autant faire quelque chose qui soit aussi moderne, qui soit vraiment digne de notre présence en France. Et aussi, je crois que c'est un cadeau aussi que l'on donne à la ville de Cergy parce que, comme on l'a dit, lorsqu'on a écrit aux Cergissois dès 2003. On a fait une lettre aux Cergissois pour leur informer de notre projet, pour leur dire qu'on était des Cergissois, des Français, pour la majeure partie d'entre nous, même si on était d'origine diverse. On a cet immeuble-là et ça fait partie du patrimoine de Cergy. Et d'ailleurs, nous avons obtenu la part donc du maire et de la communauté d'agglomération que la grande mosquée de Cergy fasse partie du circuit de la journée du patrimoine des 15 et 16 septembre prochains.
Précisément, Abdoulaye Sangaré, être musulman de Cergy et avoir sa mosquée, ça représente quoi ? C'est une identité qui est renforcée ? C'est une reconnaissance ?
Je crois que plus qu'une identité, c'est une reconnaissance. Parce que, comme je le disais à certains, avant on était voisins, on se disait, tant qu'on ne disait pas qu'on était musulmans, ça passait, personne ne savait, musulman ou pas, c'est pas écrit sur le front. Donc on était Cergissois, moi j'ai plus de 25 ans sur Cergy, j'ai eu des enfants qui ont grandi ici, qui on est dans les associations socioculturelles, sportives et tout. Donc cette mosquée, je dirais, c'est une reconnaissance au niveau de la communauté musulmane, c'est une reconnaissance et aussi c'est une visibilité. C'est pas une visibilité identitaire, c'est une visibilité de reconnaissance de l'exercice du droit de culte, tel que le dit la Constitution, et le permettre de le faire, je dirais, au grand jour, en toute transparence. Vous avez visité un peu la mosquée, vous avez vu, c'est une mosquée transparente dans la ville, et c'est ce que l'on compte, c'est nos principes, et je crois que c'est une grande fierté pour cela. Je crois qu'on ne remerciera jamais assez notre député maire, Dominique Lefebvre, pour son accompagnement, pour le volontarisme politique qu'il a mis là-dessus, parce que c'est lui qui a dit aux musulmans, parce qu'avant on avait la fédération, c'est 10 associations musulmanes qui se sont réunies pour faire la fédération. Il a dit, donc si vous voulez vraiment la mosquée, je veux un interlocuteur. Donc la première chose à faire, c'est de se réunir. S'unir, définir une charte, parce que issus des quatre continents, même si on est tous de la religion musulmane, on a peut-être des pratiques un peu différentes, c'est vraiment de laisser de côté nos différences, laisser de côté nos égoïsmes aussi, et voir quel est l'objectif principal. C'est d'avoir la mosquée, de pratiquer dignement notre foi, et quand on a le premier magistrat de la ville qui vous dit, voilà, moi je suis prêt à vous accompagner, je suis prêt à garantir un emprunt que vous prendrez pour financer votre mosquée et tout, je crois que la communauté musulmane ne pouvait pas faire moins bien que de s'unir et vraiment d'œuvrer dans ce sens.
S'unir, ça veut dire que les islams d'Afrique, vous êtes d'origine sénégalaise, les islams du Maghreb, tous ces islams-là ne fassent qu'une voix. Ça, c'est possible, ça?
Exactement, c'est vraiment cela. C'est au-delà même de l'islam de l'Afrique, du Maghreb, on a aussi certains qui viennent du continent indien, les Pakistanais, il y a un peu tout cela ici. Cergy, comme on dit, c'est une ville monde, il y a plus de 130 nationalités sur Cergy. Donc, tous ces islams-là, effectivement, cet islam-là, parce qu'il n'y a qu'un islam en fait, ces pratiques différentes elles sont aujourd'hui sous la coupole en fait, de la Fédération musulmane de Cergy. Nous parlons d'une même voix. Nous avons réussi ce pari qui n'était pas facile au début parce que c'est pas facile. Bon, beaucoup d'entre nous, en fait, on s'est connus à travers la Fédération musulmane. C'est ça aussi, je crois que c'est de la convivialité, c'est de vivre ensemble. Je crois qu'on l'expérimente tous les jours au sein de la Fédération musulmane de Cergy.
Alors, ce premier Ramadan 2012, dans une toute nouvelle mosquée, comment ça va se dérouler ?
Ah, bah c'est, je vais pas dire qu'un peu c'est l'aventure, parce qu'on voit bien un peu comment c'est, mais au niveau du format, tout à fait, c'est une grande première. On a eu déjà beaucoup de frissons, il y a eu même des pleurs, des larmes de joie de certains anciens, lorsque le 29 juin, on a fait la première grande prière du vendredi dans cette mosquée, c'était vraiment quelque chose. Là, c'était, on avait vraiment la chair de poule, quoi, pour vous dire. C'était vraiment impressionnant. Et beaucoup ne croyaient pas à cela, ils se disaient, c'est pas possible que ça arrive si tôt, mais ça a été fait. Donc là, nous nous préparons, donc vous avez vu, il y en a laissé un groupe en train de travailler pour la répartition des tâches et des rôles, pour bien organiser ce Ramadan, parce que le Ramadan, c'est une période très importante au niveau de la religion musulmane, c'est la révélation du Coran s'est faite durant ce mois-là, donc nous ferons tout, en tout cas, grâce à Dieu, comme on dit, pour que ce Ramadan soit une réussite aussi, et que tout le monde s'y retrouve aussi bien du point de vue de la foi, du point de vue de l'organisation et qu'on soit fiers de ce Ramadan.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire ?
Assurer quotidiennement, donc je dirais, les prières, la partie cultuelle, assurer quotidiennement l'ouverture pour que les fidèles puissent venir se recueillir, parce que c'est un grand mois de recueillement. Et ensuite, par rapport à la rupture du jeûne, donc on organisera pour que ceux qui seront présents dans la mosquée puissent faire leur rupture correctement. Et donc, peut-être que si vraiment au niveau organisation, on peut le faire, il y aura certainement un repas ou deux repas. On verra en cours de mois qu'on pourra faire de convivialité pour convier ne serait-ce que nos voisins qui ont bien accepté de nous accueillir. Et je sais que de temps en temps, ils ont quelques désagréments parce qu'il y a du mouvement, il y a des voitures, il y a du parking et tout cela. Je crois qu'on pensera à eux pour faire un repas de convivialité, pour les convier, pour leur montrer un peu comment c'est. Et puis on fera aussi certainement un grand repas du Ramadan, ouvert à tout le monde, à tous nos amis, un repas débat conférence, on verra un peu le format bientôt.
Alors il faut vite finir vos cuisines là.
Tout à fait. Non, mais je crois que si les cuisines ne sont pas prêtes en temps, on pourra toujours compter sur la solidarité et puis la bienveillance de la communauté pour faire ce repas.
Le président de la Fédération musulmane de Cergy, Hamida Maïga. 76 ans, d'origine malienne, il est aussi le sage des musulmans de Cergy qui lui doivent beaucoup dans l'aboutissement du projet de la Grande Mosquée. Pour lui, ce Ramadan 2012 à la Grande Mosquée, eh bien, c'est d'abord celui du regroupement.
C'est le premier Ramadan qui va nous faire quitter les salles municipales, puisqu'il y a plusieurs salles pour le mois de Ramadan. Aujourd'hui, toutes ces salles-là vont se regrouper dans un seul bâtiment. C'est sûr que ça va être un peu difficile, puisque c'est la première fois que nous allons recevoir autant du monde. Et c'est sur ça, d'ailleurs, que nous sommes en train là, de faire une réunion préparatoire pour éviter certaines choses. Évidemment, ce n'est pas facile, mais je pense que nous allons arriver.
Qu'est-ce que vous craignez ?
D'abord, la sécurité de tous les fidèles qui viennent. Éviter que des débordements au niveau du voisinage. Et puis, écoutez, il faudrait aussi ravitailler les fidèles. Là, on fait appel à tout le monde de nous amener des dates et autres pour que les gens qui viennent ici pour la rupture de jeûne reviennent le lendemain.
Bon, c'est moins compliqué quand même d'apporter des dates que de construire une mosquée, non ?
Évidemment, c'est moins compliqué, mais on fait appel aussi à tous les fidèles qui viennent aussi de se préparer pour ce mois de Ramadan, pour que la somme que nous avons déjà utilisée sous forme d'avance, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui à 1 million, presque 1 million 800 d'avance, cette somme, nous souhaiterions que ça soit vraiment remboursé avant la fin de l'année. Et on fait appel à tous les musulmans du monde.
Vous êtes-vous d'origine donc malienne ?
Je suis de la région du Nord Mali.
Donc la région touchée.
Où nous sommes aujourd'hui en otage, c'est-à-dire avec des bandes de trafiquants, des bandes de tout genre qui nous ont pris en otage. Alors je ne vois pas pourquoi ces gens-là qui ne sont même pas du Mali viennent nous prendre en otage. Aujourd'hui, il faudrait que le monde entier voit ce qui se passe. Et je pense que le monde entier, demain, s'ils ne font rien, regretteront ce qu'ils vont, ces gens-là vont faire parce qu'ils ont l'objectif. C'est quoi ? c'est islamiser toute l'Afrique et l'Europe. Et sur quelle base ? Nous, nous sommes en train de faire quelque chose ici sur Sergi qui est unique. Et on nous dit au Mali que vous n'êtes pas musulmans. Ils sont en train de tuer les gens, affamer les gens, martyriser les gens, casser des monuments qui sont là depuis des siècles. Et c'est inadmissible. Je pense que le monde aujourd'hui doit regarder en face et faire quelque chose pour le nord du Mali.
Ça, pendant le ramadan, vous allez régulièrement en parler ici à Sergi ?
Écoutez, nous avons des comités qui font beaucoup, beaucoup de réunions pour ça. Moi, personnellement, je ne parle pas sur ces problèmes puisque je suis dans une mosquée où nous sommes plusieurs nationalités. Donc, voilà.
Alors... Oui, mais est-ce qu'il y a une solidarité entre les différents courants ici ?
Il y a une solidarité parce que tous les jours, les gens viennent me dire, bon, écoutez, nous sommes vraiment avec vous et que cette affaire qui vous martyrise dans le nord Mali, il faudrait que ça s'arrête.
C'était Hamida Maïga, président de la Fédération musulmane de Sergi.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Suite de cette émission consacrée à l'ouverture du mois du Ramadan avec l'islamologue Michel Orcel, avec nous en ligne de Nice pour son livre « L'invention de l'islam » publié chez Perrin. Cet ouvrage est le fruit d'une grande enquête historique sur les origines de l'islam. Michel Orcel, bonjour.
Bonjour.
Vos précédentes analyses portaient sur les sourates et sur le Coran et cette fois vous avez voulu explorer la naissance de l'islam avec la lecture de sources peu connues. Alors Michel Orcel, que recherchez-vous ?
Eh bien écoutez, la version dogmatique de la naissance de l'islam, qui est fournie par l'islam lui-même, est une version qui est naturellement digne de respect, mais qui ne satisfait pas le chercheur ou le scientifique occidental, laïque. Notamment parce que toute la tradition musulmane s'appuie sur des sources orales qui ont été compilées par écrit 2 siècles environ après la mort du prophète. Donc ce sont des sources qui ne sont pas utilisables telles quelles par la science occidentale. J'ai donc cru bon, je ne suis pas le premier naturellement, de faire une enquête sur les sources extra-musulmanes ou sur les récits anciens non retenus par la tradition pour vérifier si ce que la version canonique enseigne est susceptible d'être conforté ou au contraire infirmé, annihilé par des recherches plus objectives.
Ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous insistez sur l'alliance originelle effectivement de l'islam avec le judaïsme d'une part et de la filiation de l'islam avec le judéo-nazaréisme. Alors, quelques points de précision.
Alors, sur l'alliance originelle entre judaïsme et islam, nous savons d'abord par les textes eux-mêmes, par le Coran et par la tradition musulmane, que c'est une chose qui est reconnue par l'islam lui-même, reconnue et à la fois niée, si je puis dire, parce que justement l'islam a tenté et a réussi à échapper à cette première alliance pour marquer sa spécificité. Sur le judéo-nazaréisme, alors c'est une hypothèse qui est déjà ancienne, qui a été soutenue par quelques chercheurs et qui semble aujourd'hui tout à fait plausible. L'islam serait en quelque sorte une variation sur ce courant, cette mouvance chrétienne, si vous voulez, qui reconnaissait le rôle messianique du Christ, mais non pas sa nature divine. Et là, nous sommes donc en pleine christologie musulmane, puisque pour l'islam, la personne de Jésus, qui est d'ailleurs très très importante, souvent sous-évaluée par les musulmans comme par les non-musulmans, la personne de Jésus, qui est très très importante dans le Coran, est effectivement une personne prophétique, miraculeuse, verbe de Dieu, mais non pas Dieu, naturellement. Donc ça, c'est exactement la pensée des judéo-nazaréens qui se distingue des chrétiens trinitaristes qui croient que le Christ est une hypostase de la divinité.
En fait, le judéo-nazaréisme, voilà, c'est la version plus tardive après, ça sera l'arianisme.
Alors c'est très proche de l'arianisme, effectivement, et on peut s'interroger, effectivement, sur les parentés entre arianisme et christologie musulmane.
Finalement, ce que vous soulevez, Michel Orcel, ce sont tous ces points de convergence dans une époque où les grands monothéismes finalement se frottent les uns contre les autres.
Oui, disons que si j'avais une conclusion à tirer de ma recherche et de cet ouvrage, c'est que contrairement à cette idée maintenant assez répandue et si dangereuse qui est le choc des civilisations, il paraît évident, donc à l'issue de ces recherches, que le socle entre christianisme, judaïsme et islam est tout à fait commun. C'est un socle absolument commun, bien que notamment des islamophobes d'extrême droite catholique veuillent ruiner cette idée. Mais ça paraît indéniable, je crois, à un œil objectif, ça paraît indéniable.
Alors, Michel Orcel, l'islam, donc dernière révélation, accomplissement des monothéismes antérieurs ?
Écoutez, moi je ne me place pas sur un plan théologique et religieux, je me place sur un plan historique, purement historique, donc ça n'est pas à moi de dire si c'est l'accomplissement ou non des monothéismes antérieurs. Ce qui est vrai, c'est que l'islam se présente comme une sorte de restauration d'un monothéisme originel, et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est effectivement, il est dans cette ligne-là et il n'a pas varié.
Alors, vous abordez différents thèmes hein, dans ce livre, il y a bien sûr la vie du prophète, il y a la Mecque, la Kaaba et le Dôme du Rocher à Jérusalem. La question du Coran, bien sûr, est centrale. Et là encore, vous soulignez la grande question autour du Coran, Coran créé, Coran incréé.
Je ne fais qu'aborder cette question-là de façon très très prudente, parce qu'elle est très complexe. Il est vrai que dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire de la théologie musulmane, la question s'est posée, parce que les intellectuels musulmans, les premiers intellectuels musulmans se sont posé la question, et l'orthodoxie musulmane pendant 20 ans à Bagdad a été effectivement mutazilite, c'est-à-dire était représentée par des penseurs qui pensaient que le Coran était créé. Au total, c'est malheureusement, là, je dirais malheureusement, parce que nous voyons les conséquences d'un agrippement fanatique à la lettre du Coran. Donc c'est l'école opposée qui a finalement triomphé, c'est-à-dire l'école du Coran incréé. Mais enfin, la question s'est posée longtemps et a continué à énerver la réflexion musulmane jusqu'au XVe siècle. Et aujourd'hui d'ailleurs, les nouveaux penseurs de l'islam réfléchissent sur cette question du Coran créé. Alors, Coran créé, bien, naturellement, pour nous c'est important parce qu'il est évident que le Coran a forcément une histoire dans la mesure où il est incarné dans l'histoire des hommes. Il a forcément une histoire et cette histoire peut se décrypter partiellement. Nous n'avons pas la clé absolue du mystère, mais nous avons des éléments importants sur l'histoire du Coran, sur l'histoire dont il a été reçu et dont il a été transmis, parce que c'est la question là, c'est la question de la transmission qui est importante.
Avec des versets abrogés, des versets oubliés
Ça, c'est la tradition déjà musulmane qui parle de versions abrogées et de versions oubliées, mais il y a aussi la question du passage de l'oralité à l'écriture. Il s'agit de savoir à quel moment et dans quelles conditions s'est effectuée cette modification, ce changement de statut, de régime entre l'oral et l'écrit. Jusqu'à présent, l'islamologie occidentale avait tendance à reculer de plus en plus la date de rédaction du Coran. Jusque les plus audacieux, je dirais les plus provocateurs des islamologues européens ou occidentaux, penchaient pour une rédaction tardive jusqu'au Xe siècle, disons. Ça, ce sont les hypothèses les plus audacieuses. En réalité, avec déjà certains éléments que nous possédions dans des grands musées ou des grandes bibliothèques européennes, très peu d'éléments, mais quelques-uns, et surtout avec la découverte des manuscrits de Sana'a au Yémen dans les années 70, nous savons désormais que des versions extrêmement anciennes, probablement à peine postérieures de 20 ou 30 ans à la mort du prophète, étaient déjà en circulation. Le Coran était déjà bien constitué. Alors avec de légères variations par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, certes, et ça c'est une question qu'il faut méditer et approfondir, mais en tout cas le corpus coranique existait déjà très très tôt, dans un des grands centres musulmans de la péninsule arabique.
Pour conclure, Michel Orcel, je reviens sur le titre de votre livre, L'invention de l'islam. Pourquoi ce titre ?
Je crois que même pour les croyants musulmans, l'idée que l'islam n'est pas né, comme ça, n'est pas tombé du ciel. Le Coran, les croyants le pensent, en sont persuadés, le Coran est descendu du ciel. Bon, pour eux, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, l'islam, c'est-à-dire la religion, à la fois le dogme et la religion, les institutions, ont été inventées. Il a fallu deux siècles pour que le message coranique se transforme et trouve des formes humaines, des formes juridiques, des formes politiques, etc., pour s'incarner. Donc il y a bien une invention, une création d'une partie de la pensée et de la dogmatique musulmane.
C'est ça, invention, en fait, une élaboration.
Élaboration.
Je vous remercie, Michel Orcel. Donc, le titre de votre livre, L'invention de l'islam, enquête historique sur les origines, et c'est publié chez Perrin. Dans quelques instants, l'info. On se retrouve après le flash avec la rediffusion d'une émission de Religion du Monde consacrée à la pensée du grand islamologue Mohamed Harkoun, décédé en 2010. Restez à l'écoute de RFI.